Ici,
Radio France Internationale.
1, 2, 1, 2, test, test, micro.
Micro,
micro.
Microscopie,
la société au microscope.
Camille Geoffrey, Édouard Zambeau.
Donc là, il est 9h et comme tous les matins, pour partir au bureau, je prends le métro. Comme tout le monde, je valide ma carte d'abonnement qu'on appelle désormais à Paris le Pass Navigo. Cette carte est désormais équipée d'une puce. Il y a aussi ma photo, mon nom, et dedans un certain nombre de données personnelles, notamment mon adresse. Cette carte d'abonnement permet à la RATP de me suivre désormais dans tous mes déplacements et de savoir que ce matin, j'ai pris le métro dans cette station à 9h06.
Bonjour et bienvenue dans Microscopie. Voilà donc comment débute pour la majorité d'entre nous, hein, une journée urbaine et dans une journée normale, entre guillemets, chacun de nous sera en moyenne tracé, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire identifié et localisé au moins une dizaine de fois, hein, car de plus en plus dans chaque geste de notre vie quotidienne, les nouvelles technologies s'invitent. Elles nous rendent service, bien sûr, mais nous identifient, nous localisent, nous tracent donc aussi. Il en est de même pour nos recherches sur Internet ou pour la constitution de fichiers qui nous classent selon des critères qui nous échappent et recèlent des informations qui ne sont pas toujours exactes, loin de là. Nombreuses sont d'ailleurs les institutions à s'émouvoir des risques de ces avancées technologiques sur nos libertés individuelles. Il y a peu de temps encore, la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, rendait son 29e rapport annuel dans une certaine indifférence, il faut bien le reconnaître. Pourtant, en près de 40 pages, cette commission indépendante, qui emploie tout de même 132 personnes pour veiller sur nos libertés informatiques, recense les dérapages, les erreurs et les manquements constatés tant dans la gestion et la constitution des fichiers de police que dans l'installation de systèmes de vidéosurveillance ou de biométrie. On y découvre quelques chiffres qui font froid dans le dos, il faut bien le dire. Par exemple, 83% des fichiers de police contrôlés en 2008 par la commission étaient, je cite, « inexacts ». Erroné ou périmé. On entendra d'ailleurs au sujet des fichiers de police, le président de la CNIL, Alex Turc, dans la seconde partie de cette émission. Nous aborderons aussi, après le rappel des titres, la question de la vidéosurveillance avec le point de vue d'Alain Bauer, un des conseillers du président de la République en matière de sécurité. En attendant, je vous propose de revenir au rapport de la CNIL. Alex Turc l'affirme, plus aucun secteur d'activité, plus aucune parcelle de notre vie individuelle et collective n'échappe désormais au développement et à la pression des technologies nouvelles de l'information. Voilà pour le diagnostic. Un diagnostic qui est d'ailleurs partagé par notre invité, Jean-Pierre Dubois, le président de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Jean-Pierre Dubois.
Bonjour.
Alors vous faites un peu plus précis que le président de la CNIL, puisque dans un livre intitulé « Une société de surveillance » et publié par la Ligue des droits de l'homme aux éditions de La Découverte, vous affirmez que le recul des droits et libertés a continué tout au long de l'année 2008. C'est clair, hein. Dans le titre de votre ouvrage, il y a un point d'interrogation. Est-ce qu'il n'est pas un peu superflu quand on a fini de lire le livre ?
Il n'est pas superflu dans la mesure où tout n'est pas irréparablement joué. En revanche, on peut dire qu'il est très urgent d'agir. Nous sommes face à une explosion de technologies qui, comme vous l'avez dit, sont à la fois utiles et potentiellement dangereuses. Il est encore temps d'essayer de les maîtriser, mais d'ici quelques années, ce serait trop tard. Nous sommes bien d'accord avec le diagnostic de la CNIL sur ce point.
Dans quel domaine est-ce que nos libertés sont les plus menacées ? On détaillera tout au long de l'émission, mais très vite là-dedans. Dans quel domaine est-ce qu'il faudrait vraiment être attentif ?
Il y a beaucoup de secteurs qui se recoupent d'ailleurs les uns les autres. Par exemple, il y a deux fois plus de personnes en prison qu'il y a 20 ans dans ce pays. Alors, soit il y a deux fois plus de criminels, soit tout simplement on est entré dans un système où on répond par la prison à des tas de choses qu'on traitait autrement. Il y a d'ailleurs 30% de malades mentaux graves dont personne ne sait que faire en prison. C'est le ministère de la Justice lui-même qui le dit. Il y a beaucoup plus de solutions de surveillance ou d'enfermement ou de stigmatisation qui montent. Il y a également une tentation de désigner des gens de manière discriminatoire comme étant des sources de danger.
Des boucs émissaires.
Oui, des classes dangereuses, comme on aurait dit au 19e siècle. C'est évidemment le cas des gens qui habitent dans les quartiers pauvres. Alors on dit aujourd'hui les quartiers sensibles, ce qui montre que les gouvernants ne sont pas très sensibles, je suppose, c'est par contraste. Mais dans ces quartiers-là, qui sont les quartiers pauvres, où il y a aussi beaucoup de gens issus de l'immigration, on organise une image de peur. Et c'est particulièrement vrai de la jeunesse, rappelez-vous, la racaille qu'il faut nettoyer au Karcher. Et aujourd'hui, ça s'étend d'ailleurs un peu à la jeunesse en général. C'est-à-dire qu'on voit bien que le traitement des jeunes en général, quand ils sont au collège, quand ils sont au lycée, quand ils sont dans la rue, est devenu le traitement de gens dangereux qu'il faut maîtriser, comme on maîtrise l'immigration. Donc il y a une montée d'une philosophie de la société qui est que nous sommes tous présumés dangereux.
On a l'impression, hein, à lire ce petit livre qui fait quelques dizaines de pages, que la science-fiction nous rattrape finalement. C'est un peu 1984 et à ce sujet, je vous propose, pour commencer cette émission, d'assister à la 9e cérémonie des Big Brother Awards qui se déroulait, il y a un peu plus d'un mois, à Montreuil, dans la banlieue de Paris. Alors les Big Brother Awards, dans une allusion au roman 1984 de George Orwell, vous l'avez compris, c'est sur le modèle des Césars ou des Oscars, une cérémonie qui récompense sur le ton de l'humour, il en faut bien, vous l'entendrez, des personnalités ou des anonymes qui contribuent au développement de la surveillance de tout un chacun en France, c'est-à-dire nous-mêmes. Et Aline Leclerc a assisté à cette cérémonie pour Microscopie.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Depuis 9 ans qu'existent les Big Brother Awards, on n'avait jamais vu ça. Nous nous trouvons dans une situation de recrudescence inédite de la délation.
Jean-Marc Manac, je suis journaliste et par ailleurs membre des Big Brother Awards. En fait, c'est parti d'une ONG britannique qui s'appelle Privacy International, qui il y a une dizaine d'années s'est dit, et si on remettait un prix à la manière des Oscars à tous ceux qui s'illustrent en matière d'atteinte à la vie privée ou de promotion de la surveillance. Donc en fait, on constitue des dossiers, c'est une équipe de journalistes qui organise les Big Brother Awards, on monte des dossiers tout au long de l'année sur des gens, des institutions, des hommes politiques, des entreprises privées également, qui se sont illustrés en matière de promotion de la surveillance, ou vraiment d'atteinte aux libertés et à la vie privée. Ensuite, on réunit un jury. C'est des sociologues, des universitaires, des magistrats, des avocats, enfin des personnalités de la société civile. On leur soumet la quarantaine de dossiers qu'on a constitués et eux décident quel est le gagnant par catégorie. Catégorie localité, catégorie entreprise. Et il y a aussi une catégorie Voltaire qui là récompense ceux qui sont illustrés en matière de défense de la vie privée et de résistance par rapport à toutes ces logiques de contrôle.
Une petite ville, un quartier sont autant d'endroits où peut se développer la banalité du mal. Souvenez-vous des albums d'Astérix. Au début de chaque album, le village, il est placé sous une loupe. Surveillance.
Mathieu Bonduel, secrétaire général du syndicat de la magistrature.
Donc là, vous faisiez partie du jury ce soir. Pourquoi vous avez accepté d'être là ?
Ça fait plusieurs années que le syndicat de la magistrature participe au jury des Big Brother Awards. Comme le syndicat de la magistrature est engagé depuis toujours dans le combat pour la défense des libertés individuelles et publiques, et il est logique pour nous d'être ici. C'est-à-dire que ça fait partie de ces initiatives de vigilance qui nous paraissent absolument nécessaires. Les libertés publiques n'ont probablement jamais autant reculé en France, sous la 5e République en tout cas, que depuis, disons, 2002. Avec l'arrivée, il faut bien le dire, de Nicolas Sarkozy au centre du pouvoir exécutif, à l'époque comme ministre de l'Intérieur, et donc aujourd'hui comme chef de l'État. Depuis 2002, les lois qui portent atteinte aux libertés individuelles se sont multipliées. Il ne se passe pas un trimestre presque sans qu'une loi de ce type soit votée, avec un déséquilibre majeur, je dirais, en défaveur des libertés. Puisqu'une société démocratique repose normalement sur un équilibre entre la sécurité, qui est évidemment une exigence, qui est évidemment un besoin légitime des citoyens, et les libertés, qui sont également une exigence, qui sont également un besoin des citoyens. Et aujourd'hui, tout se passe comme si, au nom de la lutte pour la sécurité, qui d'ailleurs apparaît bien inefficace, puisque les lois se multiplient, on pouvait impunément, si j'ose dire, porter atteinte dans tous les secteurs de la vie sociale aux libertés des individus. Un des mérites aussi de cette cérémonie, c'est d'informer les citoyens. C'est vrai que ce travail d'information, normalement, devrait être pris en charge par l'ensemble des médias, au fond. Mais les sujets sont tellement techniques, et peut-être la volonté d'éclairer ces sujets-là n'existant pas, les Big Brother Awards sont parfaitement légitimes, avec un travail de documentation qui est quand même très intéressant, très précis.
Sur cette bonne nouvelle, nous allons tout de suite passer aux nommés de cette année. Qui sont ?
Alors, on commence par Bertrand Delanoë et Christophe Carèche, son adjoint sécurité à la mairie de Paris, qui ont joué le gentil toutou caniche Saint-Michel Alliot-Marie en matière de promotion de la vidéosurveillance sans jamais écouter les nombreuses critiques qui étaient faites au sujet de la vidéosurveillance et notamment les rapports qui ont été faits qui démontrent que ça sert surtout à se faire réélire.
Olivier, 32 ans, je suis informaticien. Il me paraît très clair qu'il y a de plus en plus de lois sécuritaires qui sont votées, mises en avant, sans réel débat des inconvénients qu'elles engagent. Si on prend la loi Hadopi par exemple.
Donc c'est sur le téléchargement illégal sur Internet.
Voilà. Alors la loi Hadopi, c'est une loi qui se veut régler un problème qui est réel, c'est le piratage. Maintenant, mettre en place une surveillance des flux à outrance sans peser les inconvénients et ce vers quoi ça peut tourner, et d'ailleurs sans même expliquer comment on va le faire, parce que ça génère une quantité de données énorme à traiter. Sans aborder ce terrain-là, ça me paraît dangereux.
Suivant.
Candidat suivant, c'est Jean-Pierre Albertini, maire de Salbris dans le Loir-et-Cher. Alors lui, il est nominé pour délation et incitation à la discrimination. C'est un maire qui, pour, je suppose, ramener la paix sociale dans sa ville, a décidé qu'il serait judicieux de rendre public les noms des parents des enfants qui auraient commis des incivilités dans la ville.
Je m'appelle Sylvie, je travaille dans l'administration, j'ai 48 ans.
Je peux vous demander pourquoi vous êtes venue ici, c'est ça ?
Parce que la tournure que la société prend m'inquiète énormément. Je suis déjà très informée. Moi, ce que j'attends, c'est de voir s'il y a beaucoup de public et si ça intéresse de plus en plus de gens, et pas seulement des, disons, marginaux ou des gens déjà très, très politisés, mais que, si ça amplifie, s'il y a une prise de conscience, quoi.
Vous avez l'impression que les gens n'ont pas conscience des dérives actuelles, les gens qui vous entourent, par exemple ?
J'ai l'impression qu'ils en ont conscience, mais qu'ils croient qu'ils ne sont pas concernés. J'ai surtout l'impression qu'ils s'en fichent. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à se reprocher.
Suivant. Le maire de Bodinard-sur-Verdon. Alors là, pour le coup, ton village d'Astérix, il me fait vraiment penser à ça.
Ah bon ?
Parce que Bodinard, c'est un petit patelin donc dans le Var. Je crois qu'ils sont 146 habitants dans la commune. Et bientôt, la 13e caméra de surveillance va être installée pour surveiller la déchetterie.
Bravo. Non, mais c'est pour verbaliser ceux qui vont pas mettre les bouteilles dans le casier à bouteilles.
Exactement, il a dit. 146 habitants, 12 caméras, faites le rapport, c'est le record de France.
Moi, je m'appelle Laurent, j'ai 48 ans, je travaille dans le bâtiment. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, j'ai rien à me reprocher, mais tout le système se met en place pour pouvoir fliquer les gens. Et le jour où les lois vont changer, parce que X ou Y décide de changer les lois, ben, il y aura plein de gens qui, à ce jour, n'ont rien à se reprocher, qui tout d'un coup vont être délinquants. Il y a tout un outil qui se met en place, à la fois administratif, juridique et surtout technologique, qui va permettre à n'importe quel crétin venu, après, d'avoir des leviers et des moyens de pression énormes sur tout le monde.
Suivant, Maryse Dagnicourt-Nissan, qui est directrice du pôle emploi de l'Aquitaine. Parce qu'elle a testé, elle a bien voulu tester en avant-première et en lien avec la préfecture bien évidemment, un système de vérification d'identité pour les personnes étrangères s'inscrivant au chômage. Donc une façon de transformer l'ex-NPE ou l'ex-ACDI, enfin le pôle emploi, en auxiliaire de police. Quelque sympa.
La cérémonie, elle s'appelle Soirée de George Orwell. Donc, c'est allusion à un livre qui était quand même à la base de la science-fiction. Vous vous dites, c'est plus de la science-fiction, finalement, on commence à rentrer dedans.
On est presque dedans au sens où c'est pas un Big Brother qui contrôle tout, c'est plein de Little Brother ou plein de Big Brother différents qui se retrouvent dans l'administration, qui se retrouvent au gouvernement, qui se retrouvent dans le privé, qui se retrouvent souvent entre les deux, qui se retrouvent auprès de particuliers. Là, cette année par exemple, on a été frappé, on a eu une quinzaine de dossiers qui montraient des dénonciations, c'est-à-dire des gens, des fonctionnaires d'État qui, sous couvert de leur mission de service public, ont choper les papiers de quelqu'un, souvent c'était des sans-papiers, pour les dénoncer à des policiers. Chose qu'ils ne sont absolument pas tenus de faire et qui rappelle les heures sombres de la République. Et donc ça, c'est essayer de montrer aux gens que ça existe vraiment. C'est logique qu'on a pu voir dans le roman d'Orwell. Sauf qu'on n'est pas en dictature, on est en démocratie. Mais ça existe quand même.
Jean-Pierre Dubois, il y avait quelques centaines de personnes qui assistaient à cette cérémonie. On est quand même loin du raz-de-marée citoyen. Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous dénoncez dans ce livre, ce sur quoi la CNIL s'inquiète, ce sur quoi le Parti Socialiste a aussi fait un livre noir des libertés publiques, est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment un danger ou est-ce que vous ne jouez pas à nous ou à vous faire peur ?
Non, il y a un danger très réel. Pendant longtemps, nous étions très très isolés parce que, ça a été dit au début de l'émission par vous-même, ces technologies sont très pratiques, elles sont très commodes. Moi, j'habite la région parisienne, j'utilise le passe-navigo tous les jours. J'ai un téléphone portable, c'est très pratique. J'utilise une carte bleue, c'est très pratique. Et lorsque j'ai accompagné les parlementaires qui protestaient contre le fichier Edwige au cabinet de Madame Alliot-Marie, le conseiller de la sécurité qui nous a reçus, de manière assez polie mais me semble-t-il un peu cynique, m'a dit « Mais monsieur, vous savez, vos histoires de fichiers, c'est pas très grave. À partir du moment où vous avez un téléphone, une carte bleue et un passe-navigo, je sais tout ce que vous faites. » J'étais un peu surpris, j'ai dit « Mais vous m'autorisez à répéter ça dans la presse ?» Il me dit « Mais bien sûr, aucun problème. C'est pas moi qui le dis, c'est le cabinet de Madame Alliot-Marie. Autrement dit, il y a quelque chose que disait la dame tout à l'heure qui est très vrai. Beaucoup de gens nous disent « mais j'ai rien à me reprocher ». Bien sûr, un citoyen qui n'a rien à se reprocher peut se dire « je ne risque rien ». Mais la question est très simple. Si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi on vous fiche ? Si vous êtes quelqu'un qui vit normalement, pourquoi on vous surveille ? qu'on surveille les détenus dans les prisons, on peut le comprendre, mais qu'on surveille tous les citoyens, a priori. Moi, à ma connaissance, les citoyens honnêtes ne vivent pas tout nus, ils ne vivent pas dans des maisons de verre, et ils ferment leurs volets le soir. On pourrait leur dire, mais ne fermez plus vos volets. Laissez voir tout ce que vous faites chez vous à tout le monde, puisque vous n'avez rien à vous reprocher. C'est la notion de vie privée et la notion de présomption d'innocence qui sont attaquées tous les jours directement.
Il s'agit bien donc pour vous d'un combat pour les libertés et non pas d'un combat politique.
Ça dépend de ce qu'on appelle un combat politique. Ce n'est pas un combat partisan. Nous sommes une association politique.
Parce qu'il y a une corrélation de mouvements en ce moment.
Bien
le
sûr.
Parti socialiste, vous, évidemment, on
c'est pas
a
le parti
tendance
socialiste,
à se
nous,
demander...
C'est beaucoup de monde. Nous sommes très contents que le Parti socialiste ait repris ce combat qu'il avait un peu abandonné pendant très longtemps. Mais beaucoup de forces associatives, syndicales, politiques, je ne veux pas citer tous les partis avec lesquels on travaille depuis longtemps là-dessus, mais il y en a beaucoup, les Verts, le Parti communiste, d'autres, etc. Le Modem, dans un certain nombre de cas aussi, et les organisations syndicales. C'est toute la société civile qui est en marche.
Comment se fait-il, si le mouvement s'élargit, que l'opinion publique n'est pas encore très sensible ?
Nous venons de loin. Vous savez, l'opinion publique, elle est soumise à un matraquage depuis des années qui lui fait peur. Moi, nous disons, à Ligue des droits de l'homme, c'est la politique de la peur. Peur du terrorisme, avec l'11 septembre, peur de l'immigration et de l'islamisme et des attentats, peur des jeunes, qui seraient effrayants. M. Sarkozy dit que les jeunes de 1945 étaient des agneaux et que ceux de maintenant, on peut plus rien en faire. Donc peur de l'avenir et peur de tout ce qui vient de l'extérieur. Quand on est soumis à la peur, on a tendance à se protéger et à craindre. Et nous pensons qu'il faut réveiller un débat démocratique qui n'existe plus. En gros, M. Le Pen a construit l'agenda politique de la France depuis 10 ans. La droite court après l'extrême droite, une partie de la gauche court après la droite. Et là-dedans, il n'y a plus de débat démocratique et les citoyens ne sont pas éclairés. Il faut revenir à une information pour que les citoyens sachent ce qui leur arrive.
Ce que vous dites, c'est qu'en gros, il y a un marché de dupes qui a été passé, qui consiste à échanger une part de liberté contre un sentiment de sécurité.
Oui, notre président de la République aime bien les États-Unis. Je vais donc citer quelqu'un qui n'est pas précisément un dangereux gauchiste, qui est Thomas Jefferson, un des pères fondateurs des États-Unis. Il disait textuellement, celui qui veut échanger sa liberté contre un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et perdra les deux. C'est ce qui risque de nous arriver.
Pour vous, hein, en filigrane, c'est la tentation d'un contrôle social. Carrément, vous le dites là dans ce livre, et vous le dites notamment dans le troisième chapitre, en détaillant un certain nombre de pressions faites sur des militants, des associations, sur les agents de l'État. C'est ça la volonté qui gouverne.
Oui, et ça commence à susciter beaucoup de révoltes. Depuis le début de l'année 2009, il y a des centaines de milliers de personnes qui disent, comme enseignants, comme éducateurs, comme magistrats, comme avocats, comme journalistes, comme médecins, etc., je ne veux plus continuer à faire ce qu'on me demande. C'est-à-dire qu'il y a une question d'éthique, de déontologie professionnelle, qui fait que des professions qui travaillent pour les autres, hein, qui soignent, qui éduquent, qui forment, qui accompagnent, disent « moi je ne veux pas qu'on me transforme en machine d'auxiliaire de police ». Ça a été cité tout à l'heure, le Pôle emploi. Les fonctionnaires à qui on demande de dénoncer les chômeurs, de dénoncer les sans-papiers. Ils ont constitué un réseau qui s'appelle REFI, qui est un réseau de fonctionnaires qui refusent de se transformer en dénonciateurs. Et ça, c'est quelque chose qui monte parce qu'il y a une espèce de surveillance par ricochet. On demande maintenant de plus en plus souvent aux gens, soit comme citoyens, de ne pas être solidaires, c'est les délinquants de la solidarité que M. Besson veut poursuivre pénalement, soit comme fonctionnaires, d'être non seulement pas solidaires, mais d'être des indicateurs de police. Et ça, je pense que les gens le refuseront de plus en plus, et ce combat va monter, parce que c'est à
est-ce
la
que
fois...
c'est, est-ce que c'est la lutte contre l'immigration clandestine qui cristallise ça, ou est-ce que c'est dans d'autres domaines?
C'est dans d'autres domaines aussi, vous savez, il n'y a pas que les sans-papiers contre lesquels on lutte, hein. Il y a la France d'en bas, comme disait M. Raffarin dans cette formule imagée. Vous savez, la France d'en bas, c'est celle qu'on regarde d'en haut, hein. Bah, lui regardait d'en haut la France d'en bas, et bien la France d'en bas, c'est celle des chômeurs qui sont présumés fraudeurs, c'est celle des précaires, c'est celle des Roms, c'est celle des SDF, c'est celle des gens fragiles.
Mais la France d'en bas, c'est la France au court, Jean-Pierre Dubois.
Oui, en tout cas, c'est la France d'un nombre de gens de plus en plus grand, parce que comme les classes moyennes sont de plus en plus précarisées, comme 90% des embauches depuis 10 ans se font en dehors d'un CDI, se font avec des emplois précaires, ben, y a de plus en plus de gens dans la classe moyenne qui ont l'impression que leurs enfants sont tirés vers le bas. Donc en effet, ce qui au départ visait les gens les plus fragiles commence à viser de plus en plus de gens, et c'est un souci pour beaucoup de monde. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra bien qu'on débatte de ça. Pour dire les choses rapidement, on a le choix aujourd'hui entre une société de surveillance et une société de solidarité.
On détaillera justement cet axiome dans la deuxième partie de l'émission. Pour l'instant, je vous propose de prendre connaissance des principaux titres de l'actualité mondiale. Nous, on se retrouve juste après le flash, c'est-à-dire dans 3 minutes et quelques poussières de secondes. A tout de suite donc.